France Musique.
Merci Lionel Esparza.
Bonsoir Lionel, on vous retrouve demain en direct de l'hôtel Bedford à Paris.
Tapage nocturne jusqu'à minuit, c'est reparti.
Bruno Le Thor et François Bonnet, Tapage nocturne. France Musique.
C'est Bérangère Maxima qui sera notre invitée ce soir, étonnante compositrice qui a révélé une couleur singulière, qui puise dans un mélange de sons hétérogènes structurés par une écriture sonore ciselée. Mais avant de la retrouver, nous vous proposons d'ouvrir cette émission avec notre séquence discographique. Alors François, avec quelle merveille venez-vous ce soir ?
C'est une merveille en effet, car l'excellent label Bordelais et donc Néo-Aquitain Sonoris sort un second coffret de CD dédié à l'artiste californien Steve Rodden. Steve Rodden développe depuis plusieurs décennies une musique qu'il qualifie lui-même de lowercase. Lowercase fait référence à la typographie au tracé bas de casse utilisée pour l'écriture des minuscules. Une musique qui se veut discrète, donc subtile et sans emphase, une musique où l'expressivité se révèle dans une écoute attentive, dans un temps entre les bruits, entre les silences, où les devenirs sonores se déploient avec fragilité. Se focalisant sur 5 ans, de 2003 à 2008, ce coffret de 6 disques met en relief l'esthétique de Rodden au travers d'inspirations diverses, allant d'un 45 tours d'un chant de Noël chinois à un banjo trouvé aux puces. Mais toutes ces sources sonores passent par la sensibilité de Steve Rodden et sont modulées par son approche délicate, minimale et discrète. Nous écoutons Soft Walking, issu de la pièce In Flows and Spuns, Steve Rodden, A Thousand Breathing Forms, chez Sonoris. Nous venons d'écouter Soft Walking, issu de la pièce In Flows and Spuns, paru dans un coffret de 6 disques de Steve Rodden, qui s'intitule A Thousand Breathing Forms sur le label bordelais Sonoris.
Construit comme une sorte de parabole du monde ornithologique d'Olivier Messiaen, Pardonne-moi Olivier est un disque signé Aldo Okapi, dans lequel on trouve Jeff Light à la voix et aux flûtes et Mike Cooper à la guitare. Comme il l'avait fait en 2012 dans un précédent opus baptisé l'opérata Ripetta, d'après l'œuvre de Bruno Munari, Aldo Okapi utilise le processus du collage, puisant cette fois-ci dans les œuvres d'Olivier Messiaen. Un peu à la manière de Hurricane, mais avec l'adjectif ludique en plus, il joue avec notre ouïe et notre mémoire. Thank you. extrait de l'opus discographique Pardonne-moi Olivier d'Aldo Okapi, paru il y a quelques semaines sur le label Off Records.
France Musique.
Électroacousticienne de formation, Bérangère Maximin a, depuis, exploré toute l'étendue de l'expression musicale, tant du côté de l'électronique live que celui de l'improvisation, en passant par l'écriture pour la danse ou le cinéma expérimental. Elle revient avec un cinquième album, Frozen Refrains, qui paraît ces jours-ci sur le label anglais Atlas Realization. Elle est l'invitée de ce tapage nocturne.
Bérangère Maxima, bonsoir.
Bonsoir.
Comment pourriez-vous définir la sculpture sonore et surtout, qu'est-ce qui différencie cela de la composition ?
J'ai toujours été un petit peu contre ce terme de sculpture sonore parce que c'est un peu vague. Enfin, appliquer en tout cas ma musique, j'ai jamais très bien compris. Dans ma façon de penser, c'est plus lié à la musique qu'à l'art plastique et aux formes. Je pense en espace, en volume, en texture aussi. Tout à fait en dehors de ma démarche.
Alors, votre formation musicale a été fortement déterminée par la musique électroacoustique. Pourtant, d'une certaine manière, vous vous en êtes un peu émancipé. Qu'est-ce qui vous a attiré vers d'autres horizons que la pure musique électroacoustique ?
Ce sont les gens, tout simplement, les gens que j'ai pu croiser, qui étaient des mélomanes, pour beaucoup, qui ont une collection de disques très grande, très large, qui ont une passion pour la musique, sans en faire eux-mêmes. C'est assez intéressant de voir le retour qu'ils ont sur la musique qu'on peut faire, parce qu'ils le lient à des tas de choses très très diverses, et ça va des grands genres aux petits détails, des sentiments, des sensations, des humeurs. Et du coup, on apprend toujours des choses en parlant avec ces mélomanes, grands collectionneurs de musique, qui se déplacent aussi beaucoup dans les festivals, qui sont assez férus en fait, de tout type de musique, que ce soit jazz, électronique, musique électroacoustique, rock même. Et donc, pour beaucoup, ont commencé en fait très tôt dans leur vie, c'est-à-dire dans l'adolescence. Du coup, c'est hyper surprenant les liens qu'ils peuvent faire. Par exemple, en écoutant une de mes musiques, ils se disent « Tiens, ça me fait penser à Joy Division, le premier album de tel morceau, alors que moi, j'aurais jamais pensé à ça. » Ou alors « Oh, ça me fait penser à Cabaret Voltaire. » Ou d'autres choses qui sont très musique concrète. Tiens, ça me rappelle l'une des premières études de Pierre Schaeffer. Effectivement, là, on voit bien que tu fais référence au chemin de fer ou à la boucle, le sillon fermé, les voix aussi d'opéra que Pierre-Henri a utilisées au début, etc., que je fragmente notamment dans le dernier album. Et donc, c'est surprenant de voir, en fait, parfois, ça se croise très, très bien avec les pensées que j'ai. C'est-à-dire que parfois, je fais des références très reconnaissables à l'histoire de la musique concrète en utilisant tout simplement les sources, les mêmes sources, en fait, sonores, ou la même façon de fragmenter le son, la même façon de la mettre en boucle. Et ça me fait plaisir quand les gens le remarquent, en fait, parce que on peut très bien lire la musique autrement. On a différentes façons de la percevoir et de l'écouter. Des gens qui ont la pratique comme ça, qui écoutent quasiment tout le temps de la musique et qui collectionnent les disques, ils arrivent à faire en fait des rapports et des choses, et ils arrivent à entendre des choses que moi-même j'ai pensé en fait, des choses auxquelles j'ai pensé en faisant la musique. Donc voilà ce qui m'a poussé un peu à m'éloigner de la musique acousmatique. Bon, je connais aussi des acousmates qui sont très curieux, mais c'est vrai que en commençant en fait à fréquenter des gens ou à vivre auprès de gens qui voyaient en fait la musique de l'extérieur et aussi de manière un peu plus large, ben ça m'a poussé un petit peu à jouer avec les matières un peu différemment. Ça m'a poussé à une certaine curiosité, non pas que je n'en avais pas avant, mais c'est une autre façon de faire, de procéder, de penser la musique, d'une manière un petit peu aussi être moins déférente aussi par rapport au genre, mais d'essayer de transgresser quelque part les règles, bien que les acousmates aussi soient assez libres. Hein. Mais ça me permettait d'aller un petit peu au-delà de ce que j'avais pu penser ou des derniers procédés que j'avais essayés, etc. Ça me permet de voir les choses de manière plus globale et plus libre. Vas-y, vas-y. Thank you.
On y va. Arrive, on essaye quand même. Attends, là, il y a les boucles qui se décalent. Attends. On bouge pas. Coupé, j'ai dit coupé. Allez, voyons la suite. toute façon, faut que j'en écoute, quoi. Mobile. Voilà.
Vient de paraître Frozen's refrain. Comment avez-vous abordé cette création?
C'est assez nouveau parce que l'an dernier, ça m'a pris comme ça. J'ai commencé à réécouter les pièces que j'avais composées avant. J'ai horreur de ça en général. C'est qu'une fois qu'une pièce est terminée, déjà que je l'écoute énormément évidemment pendant la composition, mais une fois que je décide qu'elle est terminée, je l'écoute encore une fois 2 semaines après, une autre fois 2 mois après, puis après en général, je l'écoute plus. Je reviens pas trop en arrière. Et là, pour une fois, je me suis dit, tiens, c'est le chiffre 5, ça fait comme une sorte d'anniversaire en fait. Je me suis dit, c'est le 5e album, je veux quand même voir un peu ce que j'ai fait ces dernières années, enfin, ce que j'ai pu accumuler comme savoir, ou comme si j'étais en face de la miroir et dire, ben voilà, ton écriture, qu'est-ce que t'en as fait, est-ce que t'es contente ou pas, etc. Donc, j'ai fait une espèce de compile, auto-compile, des morceaux dont je me rappelais que je trouvais que c'était pas mal, et puis des fois j'étais très désagréablement surprise en disant, bon non, c'est tout plat, c'est tout simple. Finalement, celle qui m'a fait, entre guillemets, galérer le plus, c'est celle qui respirait le mieux. C'est assez... C'est curieux, des fois, avec la distance, on a plus du tout la même écoute. Et je trouve qu'on est plus objectif, évidemment. Donc, au départ, la première compilation était bien plus plate que ce que j'imaginais. Ça m'a obligée donc, à fouiller un peu plus encore dans le répertoire, plutôt que de simplement de souvenirs de choses que j'avais préférées. Des choses très abouties ou non. Mais il y avait des idées à l'intérieur, notamment une qui était... C'est curieux parce que malgré la construction, une logique, une façon de penser plutôt électroacoustique, il y avait quand même une mélodie, une sorte de mélodie qui ressortait tout le temps, quelque chose qui venait, qui un peu qui se détachait du reste du mixage. Il y avait toujours une sorte de mélodie latente qui traînait. Je trouvais ça assez beau. Je me suis dit, tiens, maintenant que je m'aperçois de ça de manière beaucoup plus évidente, je vais essayer de jouer avec. L'idée, c'était vraiment plus... de se resserrer, de travailler vraiment plus ouvertement sur la structure musicale, c'est-à-dire les répétitions de cycles, de mélodies, de faire ressortir ces mélodies-là de manière beaucoup plus consciente, les mélodies qui sont inhérentes dans les sons, en force de les répéter ou en les faisant évoluer dans le timbre, en les faisant varier dans le timbre. D'où l'idée de Frozen Refrains, pour créer un peu cette texture, enfin moi j'aime bien en tout cas faire ça, de répéter de petits fragments de sons de manière vraiment très très parfois même exagéré, parce que ça fait un peu ressortir, c'est un peu comme une centrifugeuse qui fait ressortir les harmoniques ou les choses justement qui vont venir se mélanger à d'autres et qui vont créer ces mélodies-là. Et j'ai essayé plus, de manière donc plus consciente, de jouer avec ça, d'où le titre.
Bruno Le Thor et François Bonnet, Tapage Nocturne. France Musique.
Alors, ce cinquième album sort sur le label Atlas Realization, qui est le label de Craig Leon. Comment s'est fait cette rencontre ?
C'est un ami d'un ami qui a parlé de ma musique. Il m'a contacté via les réseaux sociaux. Et il a écouté les trois derniers albums que j'ai faits et ça lui a beaucoup plu. Et ça fait un moment qu'il voulait que je sorte un album chez lui. Et ça fait au moins deux albums, il se disait, j'ai envie de restructurer mon label. Quand ça arrivera à terme, quand j'arriverai à un bon, comme disent les Anglais, un bon deal, j'aimerais bien sortir des premières choses que j'aimerais sortir, c'est un de tes nouveaux albums. Donc ça s'est fait assez naturellement, j'avais aucune contrainte artistique ni esthétique. C'est assez confortable, même si c'est bien la première fois que c'est pas le cas. Parce que en fait, j'ai écrit l'album en sachant que ça allait sortir, enfin, à moins que ce soit complètement raté, que ça allait sortir. Donc, un luxe comme ça pour une fois que je peux avoir. Et puis, on a commencé aussi à travailler ensemble en duo, d'ailleurs. Donc, c'est qu'il y a certains morceaux qu'il a aimés. Il s'est dit, tiens, tu peux les reproduire en concert ou pas? Je lui ai dit, pas forcément tel que c'est, mais une version alternative. Et il m'a proposé d'en faire carrément des versions duo, en fait, alternatives ou synthétiseurs. C'est un instrument qu'il manipule assez bien. Moi, pas du tout. C'est hyper magique. Ce que je fais, c'est avec trois doigts. Donc, en fait, on peut se compléter en plus. Et donc, il y aura une suite à cet album-là. C'est-à-dire une sorte de version duo de certains morceaux de cet album.
Vous avez beaucoup favorisé les rencontres depuis quelques années. On vous a vu avec Rhys Chatham ou Fred Frith. Qu'est-ce que vous apportent ces expériences ?
Je travaille beaucoup en solo en studio, mais c'est vrai qu'en concert, j'aime bien collaborer avec des musiciens, mais musiciens, c'est-à-dire instrumentistes, parce qu'on n'a pas du tout la même façon de faire. Je me sens un petit peu plus contrainte avec mes machines, alors même si j'essaye d'être le plus souple possible, et ils me donnent une espèce de fluidité que j'aurais moins. Enfin, je travaille aussi des solos, mais je travaillerai là, quand je suis en solo, je travaille différemment. Et il y a une fluidité, il y a une espèce de complémentarité qui se fait. Et avec des musiciens plus âgés, il n'y a pas la pression qu'on a d'une espèce de, on va dire, combat de coq entre guillemets, entre deux personnes du même âge qui un peu s'affrontent ou se confrontent ou se font la compétition comme ça en direct. Avec quelqu'un de plus âgé, j'ai un respect envers la personne et eux, ils ont une totale confiance, c'est-à-dire qu'ils n'ont rien à prouver. Ce qui fait qu'en tous les cas, par exemple dans le cas de Fred Frith, ça fait qu'on est... C'est rigolo parce qu'on peut décider vraiment au dernier moment de ce qu'on va faire. C'est vraiment free improv, l'improvisation libre, qui est qu'on peut décider 5 minutes seulement à l'avance de ce qu'on va faire. On fait un soundcheck, donc il entend quand même mes sons. Je sais par quoi il va commencer, parce qu'on lit souvent à la guitare, mais il a aussi des petites cloches, il a des chaînes, il a la voix. Donc il y a aussi beaucoup de variété de son côté. Mais au soundcheck, on voit un petit peu ce qu'on va utiliser plus ou moins. Au dernier moment, il me dit, on commence ensemble, ou alors je commence seul. Tu arrives derrière, ou alors tu commences seul, j'arrive derrière. Ça me pousse à beaucoup d'écoute. Bon, on écoute tout le temps, mais là, c'est pas la même écoute. C'est une sorte d'écoute, respiration, parce qu'on doit sentir l'autre bouger, on doit anticiper par les gestes, par une sorte de sensation. Et ça, ça n'a pas de prix, parce qu'en studio, je le reproduis en fait avec le son, comme si le son était un autre musicien. Enfin, ça accroît la sensibilité. Thank you.
Quel rapport vous entretenez avec les autres arts ?
J'aime bien le cinéma, par exemple la littérature. J'aime bien avoir une certaine naïveté aussi, c'est-à-dire ne pas trop analyser, parce que je le fais déjà suffisamment en musique. Et donc j'essaye de rester dans le, on va dire, l'ignorance, mais dans un bon sens du terme, c'est-à-dire rester fraîche, un peu naïve, un peu... Par exemple le cinéma, j'aime beaucoup, je suis émue très, très facilement, en fait, je pourrais pleurer devant un sitcom. Ce rapport-là, en tout cas, que j'entretiens avec les autres arts. Et j'ai pensé vaguement à travailler, par exemple, avec des artistes plasticiens, des sculpteurs. Mais justement, il y a ce côté où j'arrive pas à rentrer dans leur matière autant que je rentre dans les matières de musiciens ou en tout cas d'artistes sonores. Je suis épatée partout, en fait. Donc, il manque une espèce de degré un peu de connaissance ou alors de... Quand je vois ce que je fais en musique, par exemple, en étant très critique, en essayant de confronter différentes choses, en n'étant jamais satisfaite du premier rendu, etc. Souvent avec les vidéastes ou avec les sculpteurs, je suis épatée par la première version, par exemple, et je me dis, c'est très bien comme ça. Et puis c'est très longtemps après, 6 mois, 8 mois, 1 an après, quand je revois, je me dis, mais c'est fastoche que t'as fait. Enfin, c'est un peu... Du coup... J'ai pas les mêmes critères et du coup je suis plus lente à être critique et du coup je trouve la qualité on pourrait empêcher, voilà.
J'ai lu que vos compositions commençaient toujours par une improvisation, vous commencez à travailler en studio
les
par une improvisation.
Les dernières années où pas forcément une improvisation mais en tout cas d'essayer des matières en concert, c'est-à-dire que je les allie en live. Après parfois c'est des alliages un peu que je change au dernier moment, un peu une question de feeling, comme un guitariste qui changerait de tonalité ou qui jouerait en open tout d'un coup parce qu'il a envie de donner une espèce de peps à un morceau. C'est un peu pareil en concert. C'est-à-dire qu'en fait, moi aussi, j'ai cette espèce de fluidité qui permet de tout monter d'une octave ou alors de tout descendre sans changer la vitesse, par exemple. Et du coup, ça donne une autre lecture. Et je pars de ça plutôt que de rester sur une matière que j'aurais cogitée beaucoup. Bon, j'aime aussi ça en acousmatique, c'est-à-dire d'avoir un projet, de faire des prises de son qui vont avec et ensuite de travailler avec les matières qu'on a enregistrées. Je le fais toujours. Mais c'est vrai que j'aime bien aussi la partie 1 puis la partie 2 qui est d'essayer ensuite les matières en concert et de voir ce que ça donne dans l'espace avec un public aussi parce que tout de suite ça... Moi, je trouve que ça fait avancer plus vite. Que j'ai passé de nombreuses années en étant un peu isolée. Je ne suis pas isolationniste, mais enfin, j'aime beaucoup cette période de travail en studio seule. J'en ai besoin. Mais j'ai besoin aussi à un certain moment pour... puisqu'il y a plusieurs points de départ possibles, il y en a 4-5. Le fait d'essayer en public, ça permet de resserrer un peu, de voir ce qui marche vraiment, en fait. Et ce qui marche que dans ma tête, en gros. Et aussi, ça permet de découvrir les choses, de voir la matière sous un autre angle. Certaines pièces où en fait il y a que des textures qui sont présentées au public, en fait il y a des parties comme ça où il y a, par exemple dans un live où j'ai 4 morceaux, il y a 2 morceaux qui sont très construits parce qu'ils sont un peu avancés, puis il y a des morceaux qu'on considère en concert comme des transitions mais qui pour moi permettent de tester en fait certaines choses, des espaces, des articulations, différentes choses. Donc oui, ça devient important.
Thank you. sont vos projets ?
Pour l'instant, c'est très lié à la vie pratique. J'ai enregistré pendant très longtemps à Paris 18e, dans mon appartement. J'ai réussi à trouver un endroit plutôt calme, avec un petit jardin où j'entends les petits oiseaux. Et en fait, pour moi, ça va être comme un nouveau point de départ. Je vais d'ailleurs changer le nom de mon studio. Je pense qu'à ça, en fait, de comment je vais pouvoir l'arranger, comment je vais pouvoir acoustiquement aussi faire des progrès, plus d'isolation aussi. Donc là, mes projets dans l'immédiat, dans les 2-3 prochains mois, ça va être ça. Plus des concerts aussi, en Europe, en partie en Amérique du Nord, sûrement en duo, parce que ça commence à se confirmer avec Craig Leon. Mais ça, le temps passe vite. Donc j'apprends à me concentrer sur ce qu'il y a là demain, après-demain, qui est le studio, mon studio personnel dans lequel je vais continuer de travailler. Et ensuite les tournées qui arrivent, il y a quelques concerts en septembre, octobre, novembre. Donc ça va s'enchaîner ensuite à partir de septembre. Je n'ai pas encore de concert de confirmé à Paris, mais ça ne devrait pas tarder. Ce serait, bon, je ne peux pas donner de détails, mais ce serait mi-novembre. Je sais qu'on est vers la fin de notre entretien et j'aurais simplement voulu souligner. Je suis assez contente que l'interview pour mon 5e album débute ici, à Tapage Nocturne, puisque c'est là où j'ai commencé. En fait.
C'est vrai. Merci beaucoup, Bérangère Maximin.
Avec plaisir.
À bientôt.
Au revoir.
Thank you.
Ainsi s'achève ce tapage nocturne. À la technique était ce soir Yacine Monet et Cédric Châtelut, attachés d'émission Soizic Noël, chargés de réalisation Bruno Rioux-Maillard. Il est temps maintenant de retrouver Anne Montaron et César Labrévé.
Retrouvez toute l'actualité musicale sur francemusique.fr.